Martine,
bonsoir et à bientôt et que tout le monde reste sur la lutte.
Nathalie,
bonsoir et nous on a un slogan, nous ne lâcherons rien.
Il y en a qui se reconnaîtront. On lâche rien, Hélène.
On s'accroche. Bonsoir.
Allez, on termine l'émission avec le slogan d'AC Gironde, le monde changera sans fin, n'oubliez pas d'être ni flexible ni adaptable, ni soumis ni mobile et surtout pas récupérable ni rééducable, d'y rester face à l'injustice ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Allez, à que, ciao, bonsoir, à mercredi prochain.
Imaginez toujours les guérisons de nos morceaux.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Et d'abord, on commence avec notre journal Étoile et Apéron. Bonjour.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Des nouvelles dans l'affaire des violences sexistes et sexuelles à l'université Bordeaux-Montaigne.
Selon des informations de Sud-Ouest, le parquet de Bordeaux a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. C'est l'ancien vice-président de l'université et également professeur de philosophie qui est accusé par Barbara Stiegler. Une enquête préliminaire qui avait été classée sans suite en avril 2023. Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 27 juillet dernier. Rappelons que dans les plaintes pour viol, 80% des plaintes sont classées sans suite et moins d'1% d'entre elles aboutissent à une condamnation. La semaine dernière, la commission disciplinaire qui était chargée de rendre son verdict concernant la procédure interne à l'université s'est prononcée. Un an de suspension pour le professeur accusé à compter du 1er février, soit plus de 2 ans après que les faits aient été connus de la direction de l'université. Et du 12 au 16 février, une semaine de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles et les discriminations est organisée à l'université Bordeaux-Montaigne, au programme des spectacles, des expositions, des ciné-débats et des formations, avec comme axe principal un meilleur accompagnement des victimes.
Hier, 12 communes girondines, dont Bordeaux, ont signé des contrats de mixité sociale pour faciliter l'accès au logement.
La loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose aux villes de plus de 3500 habitants et habitantes de disposer de 25% de logements sociaux, a été assouplie pour ces communes. Aucune de ces villes n'a réussi à atteindre les 25% d'habitats sociaux sur son territoire. Et pour ne pas faire du social, cela leur coûte de l'argent puisque ces villes paient des pénalités financières pour non-respect de la loi. Pour la ville de Gujan-Mestras, cela représente 720 000 euros de pénalités. En contrepartie, ces communes ont signé des contrats de mixité sociale qui les engagent notamment à faciliter l'accès aux logements intermédiaires, soutenir la rénovation des logements sociaux et acheter des logements neufs. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, a tenu à défendre la loi SRU, indiquant que, je cite, « Bordeaux est à 19,6% de logements sociaux. Nous sommes sur la bonne trajectoire. La métropole nous aide. » Il ajoute également que ce n'est pas la loi SRU qui est punitive, c'est l'absence de cohésion sociale qui punit.
Il y aura un autre procès pour les deux militants de la CGT Énergie 33 qui étaient accusés d'avoir coupé le courant durant les mobilisations pour la réforme, contre la réforme des retraites.
Oui, ils avaient été relaxés le 9 janvier par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Et dans sa décision, le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la coupure à l'un ou l'autre des prévenus. Le parquet puis les parties civiles ont fait appel de cette décision.
La grève se poursuit du côté de la Poste à Sestas.
Toujours selon des informations Sud-Ouest, hier, l'équipe du matin de la plateforme de Bordeaux-Sestas a débrayé, le 9e depuis le début de la grève qui a débuté le 11 janvier. Parmi les revendications des travailleurs et des travailleuses, une revalorisation salariale avec une augmentation de 400 euros. Actuellement, la direction leur propose une revalorisation de 2,5%, insuffisant pour les syndicats. Et selon La Poste, c'est environ 22% du personnel qui est couvert par le préavis de grève.
Et puis on l'a évoqué hier, aujourd'hui à partir de 12h, les enseignants et enseignantes se mobilisent devant la mairie de Bègles pour le retour à une semaine de 4 jours. On parlera également à la fin de notre émission de la mobilisation dans l'éducation nationale qui se poursuit ces jours-ci. Un dernier rendez-vous pour clôturer cette page de brève, c'est une conférence sur l'enfermement en rétention et l'impact de la loi Darmanin et du pacte européen Asile et Immigration sur la rétention. C'est avec Pierre Lannes, ancien président de l'Institut de défense des étrangers, Émilie-Charlotte Caron et Nathalie Dugravier de la CIMAD et Morgane Lens qui est doctorant en anthropologie. Et ça se passe aujourd'hui à 17h30 à l'université Bordeaux-Montaigne, amphithéâtre C200, donc sur le campus à Pessac. Et merci beaucoup à toi Léa que j'ai oublié de remercier. 12h15 sur la clé des ondes. Bonjour à toi Manuel Coursin.
Bonjour.
Tu viens nous parler du collectif Amédée Saint-Germain dont tu es membre.
Oui.
Et habitant donc de cette zone autour de la gare Saint-Jean, juste à côté de la gare Saint-Jean. Tu étais venu nous voir la dernière fois, l'année dernière, pour nous parler donc de ce que fait le collectif et notamment de cette demande qui est là depuis des années maintenant d'obtenir un parc sur le projet, dans le cadre du projet Euratlantique. Que s'est-il passé, Emmanuel, depuis l'année dernière dans cette bataille que vous menez ?
Alors, il y a beaucoup de choses. La première, c'est qu'on est toujours là et que c'est déjà une actualité parce qu'on arrive à tenir et à proposer aujourd'hui. Donc là, on en est que le projet de parc n'est pas du tout pris en compte encore. Le maire de Bordeaux a fait en sorte qu'il y ait un moratoire sur ce chantier. Donc ça fait maintenant 3 ans que le chantier est bloqué. Ce qui nous donne le temps de nous organiser et surtout, ça nous a donné le temps de faire une proposition, une contre-proposition. C'est-à-dire qu'on a non seulement maintenant l'argument, mais aussi les arguments techniques. On a pu faire des maquettes et des dessins pour présenter notre projet de jardin ou parc de 2 hectares sur la dernière parcelle de Amédée Sud.
On va revenir là-dessus. Ce moratoire, c'est assez confortable pour vous. En attendant, ça veut dire voilà, il y a un peu de temps gagné, de répit, et vous pouvez continuer à, d'une part, faire la sensibilisation et dialoguer avec les institutions.
Oui, oui. Ben, c'est un répit, et puis c'est un argument important dans tout ce qu'on peut communiquer dans nos actions militantes et tout ça. Le fait de dire que ce chantier a pu être arrêté grâce à nous, grâce au conflit que nous avons ouvert avec Euratlantique, c'est un argument en fait très fort parce que voilà, ça dit que c'est possible.
Alors en parallèle, vous avez également déposé une requête, alors le terme est un peu barbant, requête introductive en annulation de l'autorisation environnementale sur laquelle s'appuie Euratlantique pour ses projets. Donc c'est aussi une voie judiciaire, juridique que vous lancez pour essayer de contrer tout ça.
Oui, exactement. Nous sommes allés chercher l'aide d'une avocate donc, qui nous a rejoint depuis 3 mois. Et pour le moment, on en saura plus en fait dimanche. Parce que lors de notre rassemblement de dimanche, nous allons faire une information un peu officielle de l'actualité juridique dans laquelle nous sommes. C'est pas moi qui travaille avec l'avocate, donc je vais pas pouvoir donner de détails, mais simplement de dire que l'orientation première du recours, c'est de montrer que le projet n'est pas au niveau des enjeux climatiques et environnementaux et potentiellement peut présenter des dangers sur l'environnement, c'est-à-dire la pollution, etc. etc.
Alors tu le disais, vous avez votre projet alternatif, donc puisque jusque-là ce que propose Euratlantique c'est un parc d'un hectare, c'est ça à peu près, vous demandez davantage et vous avez mis en forme ce projet avec une maquette qui sera présentée dimanche.
Voilà, exactement. L'histoire c'est que au départ il n'y avait pas de parc du tout, il n'y avait que des allées entre les immeubles prévues. Nous avons réussi, mais aussi parce que la mairie de Bordeaux a mis de l'argent sur la table pour ça, on a obtenu qu'il y ait 1 hectare d'espace vert, mais sachant que cet hectare-là sera entouré de 5 à 6 immeubles de 11 étages. Mmh. Et donc, on peut imaginer que ce petit parc de 1 hectare sera traversé de voies d'accès Et donc, on peut pas parler d'un jardin ou d'un parc. Ça sera juste des allées, des voies d'accès pour les immeubles, même s'ils sont un peu végétalisés. Deux hectares, on s'est aperçu que c'était presque l'entièreté de la friche telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous, on demande à ce qu'on a gardé la halle en pierre, qui est l'ancien centre de formation SNCF. On demande à garder parce que c'est un beau bâtiment et que ce quartier manque cruellement d'espaces citoyens et associatifs.
Donc là, on parle bien de la zone qui est en fait au niveau des voies de chemin de fer, en contrebas de la rue Amédée Saint-Germain.
Voilà, exactement. Il y a cette friche, donc elle borde les voies ferrées et la rue Amédée. Et donc tout l'espace de Amédée Centre, tout le centre de cette friche est déjà construit. Et il reste Amédée Sud à construire. C'est cette friche-là que nous appelons à végétaliser de nouveau depuis 3 ans.
Donc en quelques mots, voilà, il y a cette halle centrale qui resterait. Et puis autour, votre projet, qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être
Ça serait un projet de jardin, c'est-à-dire qu'on a vu ce qu'était la place André Meunier, qui est cours de la Marne, par exemple, fait 2 hectares. Ça donne un peu une idée. Et ces 2 hectares de la rue André Meunier, on a vu que même s'ils ont plutôt bien fait les choses, parce qu'ils ont conservé les 2 allées de platane, ils ont réussi à avoir un arbre, mais c'est plutôt une dalle qui est accueillante, mais qui n'est pas... Nous, on espère que ce soit un peu plus vallonné, un petit peu plus avec des reliefs, pour pouvoir... L'idée qu'on s'en fait, c'est de pouvoir quitter la ville sans prendre la voiture. Donc, c'est un espace de... un échappatoire au béton environnant.
Super. Donc, tu le disais, le rassemblement, manifestation plutôt que ou rassemblement qui a lieu ce dimanche à partir de 15h.
Oui, le rassemblement est à 15h et le rendez-vous est au Citerne. Ça se passe au milieu du nouveau chantier, du nouveau quartier d'Amédée Centre. À 15h, nous allons donc donner les informations et dire là où nous en sommes sur tous les plans associatifs, juridiques. Et ensuite, nous allons inviter les personnes présentes à venir faire le tour de cette superficie de 2 hectares avec une chaîne humaine et à poser une rubalise symbolique qui viendrait encercler l'espace de ce futur chantier de parc. Voilà, on va proposer ça. Et puis après, il y a une auberge espagnole pour pouvoir échanger des informations plus informellement et en détail.
Très bien. Donc le rendez-vous, c'est bien au niveau de cette... à côté des citernes, c'est ça, qui sont basées sur cette zone-là.
Oui, les citernes qui sont en travaux, donc on ne les voit plus en ce moment. Mais c'est au pied des citernes.
Très bien, rendez-vous donc ce dimanche à 15h. Merci beaucoup Manuel d'être venu nous reparler de tout ça, des activités du collectif Amédée Sacré-Cœur. Il y a de la concurrence ce dimanche puisqu'il y aura aussi une manifestation à 14h, Place de la Victoire, dont on va reparler juste après. Merci beaucoup Manuel et à bientôt.
Merci beaucoup, bonne journée.
On va passer au deuxième sujet qui concerne le bassin d'Arcachon. C'est donc ces projets de nouveaux puits de pétrole avec la société pétrolière canadienne Vermilion qui veut creuser donc 8 nouveaux puits de pétrole autour du bassin. Il s'agit de la concession pétrolière de Cazaux avec 55 km² qui s'étale du sud de la teste de Buch jusqu'à la pointe du Cap Ferret, donc essentiellement sous la forêt usagère de la teste. Ce gisement, il est exploité depuis 64, d'abord par l'entreprise SORep, racheté en 2008. Le gisement a été racheté en 2008 par Vermilion. C'est 1500 barils de pétrole qui sont extraits chaque jour et qui sont ensuite acheminés par pipeline jusqu'à Ambès avant d'être envoyés par bateau à la raffinerie de Donges dans l'estuaire de la Loire. L'entreprise Vermilion, elle justifie ce projet donc de 8 nouveaux puits par le fait que ces puits actuels, qui sont une cinquantaine, ne permettent pas de capter tout le pétrole contenu dans le gisement. puisque le rendement de chaque puits diminue année après année. Et elle compte faire cela, même si la loi Hulot, votée en 2017, prévoit l'interdiction d'extraire du pétrole du sous-sol à partir de 2040. Alors c'est vrai qu'on ne se rend souvent pas compte, moi-même j'ignorais complètement qu'il y avait déjà 50 puits de pétrole dans le département autour du bassin d'Arcachon. Pour te faire réagir peut-être là-dessus, Bruno, avant d'entendre une militante du collectif Stop Pétrole Bassin, est-ce que tu fais un lien entre la manière dont certains sujets sont tus, on n'a pas d'espace de débat, que ce soit pour la question de l'urbanisation, de la pollution, ou pour la question des puits de pétrole, Bruno ?
Oui, en fait, c'est un problème qui est global d'échange, de discussion, de transparence aussi. Nous, c'est ce qu'on dénonce. Hein, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte, là aussi, du risque. On est dans un territoire qui est fragile, qui est sensible. Et là, on est aussi sur une politique globale et symboliquement, cette ouverture, ça nous paraît d'un cynisme écologique total, quoi. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est quel message on envoie aux générations futures, c'est-à-dire après nous le déluge, on va aller jusqu'aux dernières gouttes là, et puis il n'y aura plus rien derrière. Quoi. On trouve ça très cynique, quoi. C'est vraiment. Il y a un moment donné, il faut tout de même voir la réalité en face et se dire qu'on met en danger les futures générations en leur promettant un monde fait de catastrophes, de guerres et tout ça, et moi ça me paraît totalement irresponsable. C'est ça aussi qu'on attend des politiques, c'est d'être responsable, d'avoir un minimum d'éthique et de prévoir le long terme, et de ne pas défendre des intérêts privés, mais de l'intérêt général. Et on a tous intérêt à s'adapter, parce que sinon, on va se prendre un mur en pleine face, il n'y a pas d'autre chose. Quoi. Et c'est la clé, c'est l'adaptation.
Merci. Merci Bruno Hubert. Je rappelle donc que tu es membre de l'association des éco-citoyens du bassin d'Arcachon et de Audange Citoyenne. Merci beaucoup à toi. Tu fais aussi, t'es aussi impliqué dans le collectif Stop Pétrole Bassin, dont on va écouter maintenant une des militantes. C'est Renardo qui nous a répondu un peu plus tôt ce matin et à qui on a posé cette même question de cet étonnement devant la proximité de ces puits de pétrole en Gironde.
C'est pas quelque chose qui est très 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 connu. Effectivement, la plupart des gens en Gironde ignorent même qu'il y a des puits de pétrole chez nous. Et quand on leur parle de nouveaux forages pétroliers, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été ébruité de la même manière que l'enquête publique qui a été faite pour demander aux gens de se prononcer sur ces nouveaux puits de pétrole a été mise vraiment sous silence, hein, très peu de personnes ont pu répondre puisque ça n'a pas été ébruité du tout.
Et donc sur l'aspect des pollutions, est-ce que jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est sur l'aspect local, puisqu'on va voir, il y a un peu deux enjeux. Il y a l'aspect global des émissions du CO2 dans l'atmosphère, etc. Et puis il y a l'enjeu plus local. Est-ce que localement, les puits de pétrole actuels posent des soucis ? Est-ce que la création de nouveaux puits vous fait peur parce qu'il y aurait des potentielle pollution ou des problèmes locaux qui seraient posés, Bernardo ?
Oui. Alors effectivement, il y a deux aspects, comme vous le dites. Il y a l'aspect local et l'aspect, on va dire, planétaire. Donc pour ce qui est de l'aspect local, ce qui est très problématique, c'est que d'abord pour forer des puits de pétrole, il faut utiliser pour extraire du pétrole, il faut utiliser de l'eau. Or l'eau, c'est pas quelque chose de c'est une denrée de plus en plus rare, donc on peut pas se permettre d'utiliser de l'eau pour ça. Ensuite, effectivement, on utilise un produit. Alors je saurais pas vous le dire là, mais un produit pour extraire le pétrole qui est extrêmement polluant et qui en plus doit être importé parce qu'on n'en a pas en France. Et surtout. Tout ce qui est problématique très précisément dans cet endroit-là, c'est que c'est dans la forêt de la Teste de Buch, à l'endroit précis où il y a deux ans, il y a eu d'énormes incendies, des méga-feux qui ont ravagé la forêt. Il faut quand même dire que le territoire où se situent les puits de Vermilion sont classés zone rouge pour les risques d'incendies de feu. Donc ça, c'est quand même très problématique. Donc ça, c'est l'aspect local.
Ça veut dire que la peur, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des fuites et que, ben, en période d'été, quand il fait très chaud, par exemple, ça entraîne davantage d'incendies ?
Alors, effectivement, il y a ça. Et puis, juste les fuites en soi, c'est de la pollution. Hein. Donc ça, et puis effectivement, les risques d'incendie, on ne peut pas ignorer. On voit, hein, quand on y va, que les incendies se sont arrêtés vraiment à la limite de la zone, quoi.
Et alors, donc, le deuxième aspect, c'est quelque chose de plus global sur la question de l'extractivisme pétrolier et des émissions d'hydrocarbures, c'est ça ?
Des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes et effectivement pour une consommation de seulement 1% de la population française, on va à nouveau émettre des gaz à effet de serre en quantité. Or là aujourd'hui, on sait qu'on doit absolument réduire ces GES parce qu'on est dans une situation de pollution atmosphérique très importante.
Un des arguments qui est donné par les promoteurs du projet, c'est de dire est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir tout de même du pétrole produit en France avec, dans des conditions, dans des normes environnementales relativement strictes plutôt qu'aux États-Unis ou en Russie. Est-ce que voilà, le temps qu'on trouve des alternatives et qu'on décarbone notre économie, nos modes de déplacement, etc., il ne vaut pas mieux ce pétrole-là plutôt qu'un autre, Bernardo ?
Alors le pétrole français, c'est quand même assez ironique. On pourrait dire aussi qu'on vend des armes en France. Hein. C'est pas le fait que ce soit français qui est important. Extraire du pétrole, qu'il soit en France ou ailleurs, de toute façon, c'est néfaste. On doit aujourd'hui baisser nos gaz à effet de serre, donc on doit baisser l'extraction de pétrole, que ça nous plaise ou non, qu'on le veuille ou non. Des alternatives, effectivement, il faut en trouver, mais ça fait déjà des années qu'on parle de transition écologique. Or, on a l'impression qu'on repousse sans arrêt le début de cette transition énergétique, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû y penser et peut-être travailler plus sur des alternatives telles que l'hydrogène blanc, par exemple. Or, ça, on n'en parle pas du tout. En France, on a aussi de l'hydrogène blanc, donc pourquoi continuer à curer le pétrole jusqu'au bout, alors que ça ne va représenter, comme je vous le disais tout à l'heure, que 1% de la consommation française. Ça n'a aucun sens, en fait.
Comment se fait cette jonction-là entre le fait que l'opposition à ces projets, à ces nouveaux puits de pétrole, elle se construit localement, alors que c'est un problème qui est plus global, qui concerne à la fois toute la population française, mais toute la population mondiale, en fait. Est-ce que, comment ça se passe? Comment ça fait la jonction, peut-être, entre ces différentes échelles dans l'organisation de l'opposition? Est-ce que vous considérez que c'est à vous, localement, de vous prendre en charge cette question-là avec ces arguments globaux? Est-ce qu'il y a de l'aide et de la transversalité entre vous et d'autres luttes contre ces émissions de gaz à effet de serre, là, Renardo ?
Tout à fait. Alors, qu'on réagisse localement, ça me semble tout à fait cohérent, puisqu'il y a quand même des gens sur place qui ont vécu les méga-feux il y a 2 ans, qui sont traumatisés de cette expérience et qui ne veulent pas d'autres risques. Et puis, évidemment, c'est pas uniquement local. Bien sûr, on est un collectif qui regroupe plein d'autres collectifs et d'associations, mais on a aussi du soutien. Par exemple, on a lancé une pétition sur Green Voice, avec énormément de personnes qui ont déjà contribué à cette pétition. On a aussi mis en ligne, donc c'était le 4 février, on a mis en ligne une tribune sur le site du Monde, qui a été publiée sur le site du Monde, dans laquelle 160 personnalités ont contribué, ont signé. Donc il y a des artistes, des scientifiques, beaucoup de scientifiques d'ailleurs, c'est une majorité de scientifiques qui sont intervenus, des politiques aussi. Voilà, donc on est soutenu parce que beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui se sent concerné par ce problème et c'est pas juste local en effet.
Parmi les soutiens, il y a aussi des élus politiques. Il y a Vital Baud qui est, si je ne dis pas de bêtises, conseiller départemental.
Oui, tout à fait.
Qui vous a soutenu. Il y a aussi le député France Insoumise Loïc Prud'homme qui a interrogé hier le ministre de l'écologie Éric Béchu à l'Assemblée nationale et qui lui a posé une question. Éric Béchu qui, dans sa réponse notamment, dit que la cohérence c'est de sortir des énergies fossiles par davantage d'énergies renouvelables et de nucléaire. Et il répond à Prud'homme en disant « Vous dénoncez l'inaction, mais quand on vous propose des dispositifs, vous expliquez toujours que c'est trop peu. Assumez la relance du nucléaire, sortez de votre confort et de vos postures. » Voilà, en gros, trouver des alternatives également. Comment on répond à cet argument-là de dire tant qu'on n'a pas autre chose, en fait, il faut bien des énergies et donc il faut bien du pétrole ou bien du nucléaire ou bien autre chose. Alors, je ne sais pas si sur cette question-là, il y a une position commune du collectif, mais comment on fait sans ce pétrole et quelles autres sources d'énergie, s'il y a besoin d'autres sources d'énergie, on peut utiliser ?
Alors déjà dans la formulation, je trouve que le mot confort est assez mal choisi. C'est pas confortable aujourd'hui de dénoncer les énergies fossiles. C'est même quelque chose qui est pas forcément toujours bien compris, à commencer par les détracteurs, qui sont des personnes qui souvent vont défendre effectivement le pétrole à Arcachon ou le pétrole ailleurs, mais qui vont aussi défendre le projet de la LGV, qui vont défendre l'usine à saumon, qui vont défendre la 69, etc., etc. Ce sont des projets, des grands projets inutiles qu'il faut arrêter parce que ça va à l'encontre de notre besoin extrême aujourd'hui de sortir de toutes ces actions qui sont délétères en fait pour notre environnement et donc pour nous-mêmes. Donc il n'y a pas de confort là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Eh bien, on peut leur répondre qu'ils ne sont pas du tout en accord avec ce qui a été préconisé par le rapport du GIEC, où il faut absolument, si on veut avoir une planète qui ne se réchauffe pas à plus de 1,5 degré, il faut absolument sortir de toutes ces énergies, de tous ces projets d'énergie fossile. Ce qui est dit par eux donc qui a été mis après ensuite en loi par M. Hulot, c'est qu'il faut absolument sortir des énergies fossiles et ne surtout pas en créer d'autres. Là, le problème, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter le pétrole à Arcachon, on est en train de dire qu'il ne faut pas forer de nouveaux puits de pétrole. Voilà, on arrête les nouveaux projets d'énergie fossile.
Après, on en parlait tout à l'heure, une enquête publique qui a eu lieu l'année dernière. Il y a un avis favorable qui a été donné à ces 8 nouveaux puits par la commissaire enquêtrice, c'était fin novembre. Et puis, l'instruction du dossier se poursuit au niveau de la préfecture. Est-ce que vous savez un peu où ça en est là ces derniers temps ? Et voilà, c'est quoi un peu les moyens de contrer maintenant l'avancée de ce projet ?
Alors, effectivement, il y a une enquête qui a été favorable. Donc, je parlais de tout à l'heure de cette enquête qui n'avait pas été très, très, très. Il n'y avait pas eu beaucoup de publicité autour de cette enquête, mais Madame Ancla a donc donné son accord pour ce projet, malgré le fait qu'il y ait eu. Exactement, malgré le fait qu'il y ait eu plus d'avis défavorables que favorables. Bon, elle a donné son avis. L'étape suivante, c'est la DREAL, donc la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du Logement, qui a instruit le dossier et qui, a priori, a rendu son avis qui est favorable aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il reste la présentation au premier semestre 2024 au CODERST, donc c'est le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Et enfin, et ce sera la dernière étape, le préfet de Gironde, Monsieur Étienne Guyot, qui va donner son avis, donc donner son feu vert ou pas à ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là ? Eh bien, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons mis en ligne une pétition. Donc ça, on peut toujours la signer. Hein, ça n'est pas terminé. J'en appelle aussi aux scientifiques, aux artistes, aux personnes un peu influentes de pouvoir, s'ils le souhaitent, hein, de signer la tribune. Ça n'est pas trop tard. Et puis surtout, dimanche, donc ce dimanche 11 février à 14h, nous avons tous rendez-vous à la place de la Victoire pour une grande manifestation contre ce nouveau projet d'énergie fossile.
Il y a deux questions qui me viennent. C'est d'une part, est-ce qu'il y a d'autres endroits en France où il y a des projets de nouveaux puits ces derniers temps et comment ça réagit ? Est-ce que, enfin voilà, moi j'avoue que j'avais pas entendu parler de ça ailleurs et donc est-ce qu'il y a des précédents un peu de ce type de situation ? Et puis quel lien ? Je parlais tout à l'heure de ce lien entre les différentes échelles. Est-ce que des personnes conscientes de ces risques-là qui sont pas forcément à Bordeaux ont envie de se mobiliser aussi ? Est-ce que la mobilisation elle peut dépasser un peu le cadre local, là, Renardo ?
Ah, mais la mobilisation dépasse le cadre local, puisque nous avons des personnes qui vont venir, des activistes entre autres, mais pas seulement, de personnes qui vont venir à la manifestation du dimanche 11 février, qui sont français, mais qui sont aussi hors frontières, donc des activistes d'autres pays européens qui vont venir. Donc oui, ça dépasse les frontières, c'est pas uniquement local. D'autres projets, après, il me semble, oui, qu'il y a un projet comme ça dans l'Est de la France, mais après, je préfère ne pas en parler parce que je ne connais pas le sujet, mais on n'est pas seul évidemment à vivre ça.
Voilà, merci beaucoup à Renardo du collectif Stop Pétrole Bassin de nous avoir répondu ce matin. Et puis deux petits rectificatifs, c'est Christophe Béchu bien sûr et pas Éric, le ministre de l'écologie. Et Vital Baud, il est conseiller régional. Merci aux oreilles attentives qui m'ont fait signe.
C'est la fin de notre point chaud pour aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter en podcast sur laclédesondes.fr. On se donne rendez-vous demain à midi pour le plat de résistance et de nouvelles infos. D'ici là, ce soir à 21h30, vous avez rendez-vous avec Moëz pour Trait d'Union jusqu'au bout de la nuit. Et avant ça, à 19h sur la Clé des Ondes, c'est au tour de l'autre parloir en compagnie de Lulu. Bonne soirée sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr.